Rudyard Kipling, Nabot. Voici comment cela se passa. Et cette histoire véridique est aussi une allégorie d'empire. Je le rencontrai au coin de mon jardin, une corbeille vide sur la tête et un linge malpropre autour des reins. C'était là tous les biens sur lesquels Nabot pouvait avoir l'ombre d'un droit quand je le vis tout d'abord. Il ouvrit nos relations en me demandant l'aumône. Il était très maigre et montrait quasi autant de croûte que sa corbeille. Il me raconta une longue histoire de fièvre, de procès et de marmite de cuivre qui avait été saisie en exécution d'une sentence du tribunal. Je mis la main à ma poche pour secourir Nabot, comme des rois de l'Orient ont secouru des aventuriers étrangers qui leur ont fait perdre leur royaume. Une roupie s'était cachée dans la doublure de mon veston. Je ne la savais pas là et donnais ma trouvaille à Nabot comme un don direct du ciel. Il me répondit que j'étais le seul légitime protecteur du pauvre qu'il eût jamais connu. Le lendemain, il reparut, un peu plus rond de la ceinture, et se roula à mes pieds dans la véranda du devant. Il me dit que j'étais son père et sa mère, et le descendant direct de tous les dieux de son panthéon, outre que je gouvernais les destinées de tout l'univers. Quant à lui, il n'était qu'un marchand de bonbons, et beaucoup moins important que la poussière que je foulais à mes pieds. Comme ce genre de propos ne m'était pas inconnu, je lui demandais donc ce qu'il me voulait. Ma roupie, affirma Nabot, l'avait exalté aux cieux éternels. Il voulait proférer une requête. Il souhaitait établir son débit de bonbons auprès de la maison de son bienfaiteur pour contempler mon visage vénéré, tandis que j'allais, et ça et là, illuminant le monde. Je fus heureux, par politesse, de lui accorder la permission, et il s'en alla la tête entre les genoux. Or, à l'extrémité de mon jardin, le terrain descend en pente vers la voie publique, et la pente est couronnée par un bosquet épais. Il y a, de la maison au mile, une courte allée de voitures qui passe tout contre le bosquet. L'après-midi suivant, je vis que Nabot s'était installé au bas de la pente, à terre dans la poussière de la voie publique, et à la pleine ardeur du soleil, avec devant lui une corbeille chichement garnie de bonbons sales. Il avait une fois de plus repris son trafic à l'aide de mon don généreux, et par mon honorable grâce, qui lui était un paradis. Or, rappelez-vous, il n'y avait là que Nabot avec sa corbeille au soleil et dans la poussière grise quand le premier coup de sape fut donné à mon empire. Le lendemain, il avait remonté sur la pente un peu plus près du bosquet et agitait un éventail en feuilles de palmier pour écarter les mouches de ses sucreries. J'en conclus qu'il devait avoir fait une bonne journée. 4 jours plus tard, je m'aperçus qu'il s'était avancé avec sa corbeille jusque dans l'ombre du bosquet, où il avait noué entre deux branches un haillon couleur Isabelle afin de se donner plus d'ombre. Il y avait beaucoup de bonbons dans sa corbeille. Je jugeai que son commerce avait assurément prospéré. 7 semaines plus tard, le gouvernement désigna un lot de terrain tout proche du bout de mon compound pour ériger un tribunal principal et employa près de 400 coulis à creuser les fondations. Nabot se procura une couverture rayée bleu et blanc, un trépied de lampe en cuivre et un petit garçon pour subvenir au développement de son commerce qui était formidable. 5 jours plus tard, il acheta un gros et gras livre de comptes à dos rouge et un encrier de verre. Je vis par là que les coulisses s'étaient mises en date et que ce commerce s'y accroissait suivant les règles légitimes du crédit. Je vis aussi que l'unique corbeille primitive s'était multipliée par trois, et que Naboth, taillant à coups de hache, avait avancé dans le bosquet et s'y était fait une jolie petite clairière pour donner la place convenable à la corbeille, à la couverture, au livre et au petit garçon. Une semaine et cinq jours plus tard, il s'était construit dans la clairière un foyer en terre et le gros livre de contes débordait. Il me dit que Dieu avait créé peu d'anglais de mon genre et que j'étais l'incarnation de toutes les vertus humaines. Il m'offrit en tribut quelques-uns de ses bonbons, et en les acceptant, je le reconnus pour mon feu d'inter et étendis sur lui le pan de ma protection. Trois semaines plus tard, je remarquai que le petit garçon avait maintenant l'habitude de cuisiner les repas de midi pour Naboth, qui commençait à prendre du ventre. Il avait taillé encore un peu plus dans le bosquet et possédait un second et encore plus gras livre de compte. 11 semaines plus tard, Naboth avait presque achevé de traverser le bosquet, et une cabane de roseaux avec un lit en dehors se dressait dans la petite oasis qu'il avait grignotée. Deux chiens et un bébé dormaient sur le lit. Je supposais donc que Naboth avait pris femme. Il me dit qu'il avait, par ma faveur, fait cette chose et que j'étais plusieurs fois plus aimable que Krishna. 6 semaines et 2 jours plus tard, un mur de terre avait poussé sur le derrière de la cabane. Devant, il y avait des volailles et cela sentait un peu. Le secrétaire municipal m'avertit que les eaux résiduelles de mon compound formaient une mare de purin sur la voie publique et que je devais prendre des mesures pour la faire disparaître. Je parlai à Naboth. Il me dit que j'étais le seigneur suprême de ses soucis terrestres et que le jardin était tout entier mon unique propriété. Et il m'envoya encore quelques bonbons dans un torchon usagé. 2 mois plus tard, un coulis poseur de briques fut tué dans une rixe qui eut lieu devant la vigne de Naboth. L'inspecteur de police me dit que le cas était grave, pénétra dans les quartiers de mes serviteurs, insulta la femme de mon maître d'hôtel et prétendit d'arrêter ce dernier. Détail curieux, au moment du meurtre, la plupart des coulis étaient ivres. Naboth me fit ressentir que mon nom était un fort bouclier entre lui et ses ennemis, et ajouta qu'un autre bébé n'allait pas tarder à lui naître. 4 mois plus tard, la cabane avait tous ses murs en terre très solidement bâtis, et Naboth avait employé la plus grande partie de mon bosquet à nourrir ses chèvres. Une montre d'argent à chaîne d'aluminium brillait sur son ventre bien rond. Mes domestiques furent plusieurs fois inquiétamment ivres, et ils perdaient leur journée avec Naboth quand ils en avaient l'occasion. Je parlais à Naboth. Il me dit que par ma grâce et la splendeur de ma présence, il arriverait à faire de toutes ces femmes de grandes dames, et que si quelqu'un insinuait qu'il exerçait un trafic illicite de boissons à l'ombre des Samaries, eh bien moi, son souverain, je devrais poursuivre les calomniateurs. Une semaine plus tard, il loua un homme et lui fit confectionner quelques douzaines de mètres carrés de treillage pour mettre autour du derrière de sa cabane, afin que les femmes fussent à l'abri des regards publics. L'homme s'en alla dans la soirée et laissa son ouvrage inachevé et part sur le tronçon de route raccordant la voie publique à sa maison. Je rentrais en voiture dans le crépuscule et tournais vivement le coin de la vigne de Naboth. Je m'en aperçus trop tard. Déjà les chevaux de mon phaéton se débattaient les pieds pris dans un treillage de bambou des plus robustes. Les deux bêtes s'abattirent. L'une d'elles se releva avec les genoux simplement couronnés, et l'autre était si mal en point que je fus forcé de l'abattre. Naboth est parti à 7 heures, et sa cabane, restituée à la terre originelle, avec des bonbons en guise de sel pour montrer que le lieu est maudit. J'ai fait bâtir un kiosque d'été pour dominer le bout du jardin, et c'est sur ma frontière, comme un fort d'où je garde mon empire. Je sais exactement ce que dut ressentir Achab. Son caractère a été honteusement défiguré par l'écriture.